Bien, écoutez, au fond, ça fait bien si on ne voit pas l'échelle. C'est que dommage, on aurait un petit peu quand même. Mais je vais essayer de répondre très rapidement, ne serait-ce que la première partie de votre question, parce que la deuxième est formulée de façon trop difficile. Et comprendre, c'est faire, ça mènerait à énormément d'autres analyses. La règle est ainsi, je crois que j'ai eu l'occasion de la citer le premier cours, à la suite d'une question qui m'a été posée par là, c'est que lorsque nous suivons l'énumération de différentes opinions dans une étude talmudique, alors la règle est que ce sont les premières opinions qui sont les plus proches de la vérité absolue pour comprendre, mais qu'il faut faire comme la dernière. C'est-à-dire on comprend comme le premier, mais on fait comme le dernier. Et parce que il faut effectivement qu'il y ait une contemporanéité, un lien entre la vérité et la réalité. Mais la réalité, c'est la réalité de moi maintenant. Et par conséquent, bien que la vérité, c'est la vérité à l'origine, alors je comprends comme à l'origine, mais je fais comme maintenant.
Là, il y a une suspension dont vous parliez tout à l'heure.
Comment ?
Là, il y a une suspension dont vous parliez tout à l'heure. Inhibition temporelle.
Le soir. Oui. Et je vous citerai très rapidement un important élément du Rav Nachman de Bratslav sur une formule classique, mais dont il a complètement renouvelé le sens. C'est la question fondamentale de Moïse à Dieu au moment de recevoir la Torah. Nous avons fait allusion peut-être au séminaire sur Job, il me semble. Moïse a une question importante à poser avant d'accepter la Torah. C'est « Madoua tzadik vetovlo tzadik verarlo » Il demande pourquoi il peut arriver cela qu'il y a un juste et il a du bonheur, un juste et il a du malheur, et pourquoi il arrive cela qu'il y a un méchant et qu'il y a du bonheur, un méchant et qu'il y a du malheur. Une question de théologie fondamentale et très classique. Il n'y a pas deux questions seulement, il y en a quatre. Il n'y a pas seulement la question pourquoi un juste souffre et pourquoi un méchant est heureux, les quatre positions sont des questions. Je dis très rapidement, pour la première, Madoua tzadik vetovlo. C'est aussi un étonnement. Non seulement il est juste, mais en plus il va être heureux. C'est aussi un étonnement. Et puis, et ça c'est la lecture classique. Il y en a d'autres, et puis le Rav Nachman de Bratslav arrive à un point très important qui est au fond la vraie réponse à votre question. Au non-dit de votre question. Le tzadik vetovlo, c'est un tzadik et la halakha est comme lui. Alors il est heureux. Vous voyez quel est le problème? Ça, c'est le Rav Nachman de Bratslav. Ça veut dire, ils sont tous tzadikim, oui, mais voilà que la halakha tranche comme celui-là et pas comme celui-là. Alors le tzadik, pour qui la halakha l'a tranché comme lui, celui-là c'est tzadik vetovlo. Et l'autre c'est tzadik verarlo. Bien que tzadik rarlo. Et c'est très profond d'ailleurs comme problème. Et alors il explique la deuxième formule de la manière suivante. Rachar vetovlo. C'est le rachat de la communauté du tzadik que Tovlo. Oui. Rachat mais Tovlo. Il y a un rachat, autant. Il n'y a pas de mot en français, mais vous avez compris. Il y a un rachat du vrai tzadik. Enfin, du vrai tzadik. Du tzadik.
Rachat fidèle.
Comment?
Rachat fidèle.
C'est où? Il est le rachat du tzadik que la halakha est comme lui. Oui. Je ne parle pas d'Awet, mais vous comprenez. Oui. Parce que dans Tzibour, comme vous savez, Tzibour, c'est Tzadikim, Benoni, Mourchaï. Ils sont tous ensemble dans le Tzibour. D'ailleurs, c'est une coïncidence, mais pour dire un Israélien, aujourd'hui, on dit Tzabar. C'est Tzibour. Il y a Tzadik, Benoni, Rachar. Et le deuxième, vous avez compris aussi, le Rachar Verarlo, c'est le Rachar qui est dans la communauté du Tzadik, que la Halakha n'est pas comme lui. Alors, non seulement Rachar, mais Rarlo. Et voilà à peu près le problème. C'est-à-dire, il y a cette idée qu'il y a des bons Rachaïm et des mauvais Rachaïm. Bien. Alors, écoutez, d'emblée, on aborde le paragraphe 75 dans vos références. Bien, nous avons un premier enseignement qui est dans Bereshit Rabba, au paragraphe Samachet, au paragraphe 68. Mais dans vos références, c'est le Midrash qui porte le numéro Aïnhe, page 1132, et qui éclaire la source de Rashi, Enfin, si vous n'avez que le début dans vos textes ici, mais dans les sidurites, dans les romachines complètes. Bien, voilà ce que dit la tête. Vous l'avez sous les yeux ? Oui, oui, c'est ici. Alors, le texte va expliquer ce que signifie que les anges montent d'abord et descendent ensuite. Olim et Olim Lo. Malachim, amalavim et adam ba'aret, en malavim oto bechus la'aret. Les anges qui accompagnent l'homme en Eretz Israël ne l'accompagnent pas en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire lorsqu'un homme quitte Eretz Israël, ça va être la situation de Jacob. Et les anges qui accompagnent l'homme habituellement ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, une relève entre deux cohortes d'anges, si j'ose dire. Donc tout cela est un problème. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Qu'est-ce que ça veut dire que les anges accompagnent l'homme? J'y ferai allusion assez rapidement dans l'énoncé des lectures. Mais ici, ce texte veut nous expliquer pourquoi Olim d'abord et Yordim ensuite. Vous avez compris l'explication. Les anges qui accompagnaient Jacob dans son identité d'Eretz Israël remontent, puisqu'il va quitter Eretz Israël. Et les anges qui doivent l'accompagner dans son voyage en Chutz La'aretz descendent pour l'accompagner. C'est-à-dire le point de jonction, si vous voulez, du voyage, c'est pas, si vous voulez, quand on quitte Eretz Israël, c'est pas à Lod ou à Haïfa, c'est au Kotel qu'on quitte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Puis après, on prend un chéroute, on descend, mais on a déjà quitté là-bas. Vous voyez bien à peu près ce qui se passe ici. Et donc là, nous avons une certaine surprise, si vous voulez. De quels anges s'agit-il? Donc c'est une première indication que ça ne se passe pas dans le rêve, ça se passe dans la réalité. La Torah nous décrit ce qui se passe parce que Jacob entre dans son rêve. Bien. Alors je termine. Non, c'est Siam. Olim et Louch et Livourou Beret Israël. Yordim et Louch et Livourou Beret Israël. Reprenez le Rashi, le début du Rashi que vous avez sous les yeux. Olim et Yordim, Olim Techila va Hakar Yordim, Malachim chez Livourou Beret Enyoxim Koutsalaret, Veralou la Hakia, Beyardou Malaché Koutsalaret, c'est la route. Et vous relirez cela, vous voulez que je traduise? Vous voyez les nuances dans Rashi, les anges qui l'accompagnaient en Eretz ne sortent pas en dehors d'Eretz Israël et donc remontent au ciel et sont descendus les malachim de Chutz La'aretz pour l'accompagner. Il y a une sorte de relève d'identité d'une certaine manière à ce moment précis où va être décidé que Yaakov quittera son pays pour aller à Laban, commencer l'histoire de son exil. Vous relirez cela à un verset qui se trouve à la fin de la paracha de Vayetse, lorsque Jacob quitte Laban et qu'il arrive à la frontière d'Eretz Israël, alors il y a deux camps différents d'anges, Mahanaïm. Et là nous trouvons de nouveau cette dualité. Il est accompagné jusqu'à la frontière par les anges de Chutz La'aretz. Il le quitte là, et il est accueilli par les anges de l'Église d'Israël, il l'accueille là. Bien, voici le premier texte que je vais vous signaler. S'il n'y a pas de problème, et alors là c'est différent. Dès qu'on arrive, Merahok, on y est déjà. C'est quand on quitte que c'est au centre. Non, c'est très, très clair. C'est la frontière de la Kedusha. C'est pas une question de souveraineté administrative, une question de la sainteté de l'endroit. Il y a une discussion que on a cité le cas de quelqu'un qui était en colère. Ça va vous intéresser cette mémoire. Quelqu'un qui était en colère, alors on l'amène devant le... Parce qu'il a été en colère, il a fait une faute, violence. Et on l'amène devant le Beddin, et le rabbe qui le juge, j'ai oublié les noms, mais je crois que c'est Rabbi Irmiya, le rabbe qui le juge ne peut pas admettre qu'un homme se soit mis en colère alors qu'il était en Eretz Israël. Alors on a fait une enquête, et on s'est aperçu qu'en réalité, ce jour-là, quand il était en colère, il avait un pied du côté d'Eretz Israël et un pied de l'autre côté. C'est pour ça qu'il était en colère. La Gemara cite ça pour expliquer qu'il n'y a pas de roguez par les Israël. C'est assez significatif. Elle a enregistré tout le problème de la différence entre la violence réelle et la violence verbale. Et la violence verbale comme exutoire, c'est-à-dire comme non-violence. Il y a une différence entre la véhémence verbale, qui précisément empêche la violence, et puis la violence, même lorsqu'elle s'exprime courtoisement. Bon, par exemple, le premier texte, oui. Non, je fais la différence entre... Voilà. Sauf quand c'est une sainte colère. Alors là.
Ou qu'ils ont un pied dans chaque truc.
Et il n'y a pas d'autre question. On aborde le paragraphe 74, Aïn Dalet. Et là, nous avons la référence de base concernant l'interprétation des niveaux de l'échelle par rapport aux différents exils. Je crois que le principe commun est le suivant. Dès que ce rêve de Jacob est réel, si j'ose dire, et qu'il y a ce rêve de Jacob, alors la communication entre le ciel, la terre et le ciel s'ouvre, et les différentes situations du développement de l'histoire qui commence là se déploient dans le rêve de Jacob. Alors nous lisons donc la page 1131, le dernier midrash qui est cité. Nous lisons directement. Rabbi Nachman Patach. Rabbi Nachman a commencé son enseignement de la manière suivante. Ve'ata al tira avi Yaakov, le verset que je vous ai cité tout à l'heure, et toi, tu ne craindras pas, tu n'auras pas de crainte, mon serviteur Jacob. Et voilà ce que dit Rabbi Nachman. Mais la veille Yaakov dirti va yachalom vene sulam utzabarta. Il est parlé ici de ce Jacob dont il est dit, et il rêva, et voici qu'il y avait une échelle qui est apparue. Amar Rabbi Shmuel ben Nachman. Rabbi Shmuel ben Nachman avait dit à ce sujet, Elou sare umot haolam, ces anges, il s'agit des princes célestes, des nations du monde, des Amar Shmuel ben Nachman, Rabbi Shmuel ben Nachmani, parce que Rabbi Shmuel ben Nachmani avait enseigné, Melamed, cela nous apprend, chez Hera, Kadosh Baruch Hu, le Yaakov, que Dieu a montré à Jacob, et Yaakov a binou, Sarosh el Babel, le prince céleste de Babel, Olé, Shivim Abakim, monté 70 degrés, mais chez le Madaï, Mumbet, le prince de la Perse, ici le mot qui est dit c'est la Médie, mais la Perse et la Médie, c'est Parasson Madaï, hein, ça va ensemble, c'est l'Empire Perse. D'abord l'Empire Mésopotamien, ensuite l'Empire Perse. Donc on n'étudiera pas le symbolisme des chiffres ici qui nous sont donnés, chacun à son degré. Mais chez Gavan, Koufpé, 180, et l'ange de la Grèce, 180 degrés. Mais chez l'Edom, Olé, Veloïde de Arkama. Et puis l'ange de Edom, de la civilisation de Rome, qui monte, qui gravit l'échelle, et Jacob ne voit pas jusqu'où. Et au Tacha, alors, à ce moment, Nitiara, Yaakov Abinu, Jacob a eu peur, et a dit, Efchar, chez Enlazé Yerida, serait-il possible que et celui-là n'ait pas de Yerida? Serait-il possible qu'il ne redescende pas? C'est le problème du déclin de l'Occident. Ah, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, Ve'ata Alpira Avdi Yaakov. Quant à toi, ne crains pas, mon serviteur Jacob. Afilou vous olé, même s'il monte, Ve'yoshe Metri, et qu'il réside auprès de moi, Misham Animorido, de là-bas je le ferai descendre, Haoudirti, c'est ce qui est écrit dans, vous avez la référence dans le prophète Obadiah. C'est ce qui est écrit dans le prophète Obadiah. Im takbi kaneshes, même si tu t'élèves comme l'aigle, veim ben kohavim sim kinecha, et même si tu places ton nid parmi les étoiles, misham orutra, de là-bas je te ferai descendre. On voit donc ici la perplexité, enfin la crainte de Jacob. Il voit la récapitulation de ce que sera l'histoire de sa descendance lorsqu'elle aura à traverser la compétition des empires, mais qui correspondent aux histoires antérieures des autres patriarches. Lorsqu'il arrive à la sienne, c'est lui qui va être mesuré. Enfin, je veux dire, c'est Israël en tant que fils de Jacob qui sera mesuré à Édom. Lorsqu'il arrive à son histoire propre, alors il ne voit pas la fin. et bien qu'il sache qu'il y aura la fin, il est appelé à une vision d'une programmation qui est claire, elle va jusqu'au bout. Mais, comme tout à l'heure, bien que intellectuellement il sache, et c'est le contenu, si vous voulez, le véhicule intellectuel de son espérance spirituelle, malgré tout, au niveau de l'épreuve spirituelle, c'est une épreuve de crainte, parce que ça le concerne. Parce que c'est précisément son histoire qu'il voit, alors il ne peut pas voir la fin, et sa terreur est réelle. Je veux dire, ce n'est pas une coquetterie spirituelle d'être dans l'inquiétude spirituelle, bien qu'il y ait certitude spirituelle. Il a peur vraiment, parce que cette fois, c'est lui que cela concerne. Alors Dieu le rassure en lui disant, rassure-toi, je connais moi, Dieu, la fin de l'histoire, et c'est le prophète Obadiah qui est un originaire d'Edom, d'ailleurs. Vous savez cela, que la tradition assigne à Obadiah une origine de converti. On n'est pas exactement sûr si c'est lui-même qui s'est converti ou s'il est origine de converti. Il y aurait une controverse si c'était lui-même. En tout cas, selon Judas Lévi, le converti a toutes les prérogatives d'Israël, sauf la prophétie à l'échelle individuelle. Mais déjà sa descendance là, puisque c'est une convertie collective. Et donc là, il y a une controverse par rapport à la thèse de Judas Lévi. Mais le Talmud, bien évidemment, établit que Obadiah était originaire de Edom, parce qu'il connaît très bien Edom. Lisez attentivement. C'est pas long, le prophète Obadiah. Lisez attentivement son texte, à quel point il parle pour nous aujourd'hui, aux prises d'Israël avec la civilisation de Edom. Et donc, Dieu lui dit, moi-même, je vais descendre. Il y a une autre tradition qui n'est pas signalée ici. Et la fin du Midrash est un peu différente. Et il s'agit de ceci. C'est que Jacob s'adresse à Dieu dans le Midrash, il lui dit comment ? Et le sar de Edom ne descend pas. Alors, Dieu lui dit, ben, monte toi-même, le faire descendre, et Jacob a peur de monter. Je voudrais expliquer ce point. C'est une autre tradition sur le même sujet. Et en me référant au même principe, c'est-à-dire, il y a là, en ajoutant peut-être une indication. D'une part, c'est que l'ange de Babel, c'est le mérite d'Abraham qui l'a fait descendre, etc. L'ange de Madaï, de Yavan, c'est le mérite d'Isaac qui l'a fait descendre. Mais voilà qu'arrive le stade où c'est le mérite de Jacob qui doit faire descendre l'ange d'Ésaü. Et alors, le scrupule qui devient terreur, l'angoisse, et peut-être je n'ai pas assez de mérite. Et tant que je ne suis pas sûr de ne pas en avoir assez, le fait de risquer une anticipation risque d'être un échec catastrophique. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière étape. Il est que celui qui n'a pas le droit d'être sûr de lui ou impatient, c'est Dafka Jacob. Parce qu'après, il n'y a plus de chance. Vous voyez ce rythme ? Il n'y a plus de chance dans le sens du jeu. Donner encore une chance, encore une chance. Pas dans le sens du mazal. Vous voyez, il y a ce rythme-là, la première fois, la deuxième, mais la troisième fois, c'est sérieux. Ma'avir, Rishon, Rishon. Et celui qui a joué la dernière carte, si j'ose dire, celui-là ne peut pas ne pas être paralysé. Parce que s'il y a échec, il y a échec. Vous voyez, j'essaie d'expliquer un peu psychologiquement. Ça veut dire que finalement, Jacob ne montera jamais. Parce qu'il ne peut pas. Il n'y a pas de possibilité pour lui de dire par lui-même « alors j'y vais ». Parce que son scrupule est à la hauteur de l'enjeu. Est-ce que c'est bien clair ? Il faut qu'il soit obligé. Il faut qu'il soit obligé. Et s'il n'est pas obligé, il ne peut pas. Le Maharal a beaucoup, dans le Netzach Israël, a beaucoup parlé de cela, à propos d'autres thèmes aussi, en expliquant pourquoi ce troisième exil devait durer si longtemps, à moins d'un mérite exceptionnel qui aurait pu nous faire mériter, mais vraiment exceptionnel. Et a posteriori, nous voyons bien que c'était exceptionnel théoriquement, et qu'il aurait pu nous faire mériter une fin de l'exil beaucoup plus rapide que le rendez-vous de la loi des temps, si j'ose dire. C'est-à-dire, ceci pourrait expliquer pourquoi pendant tous ces 2000 ans, exactement 1900 ans, enfin disons grosso modo comme d'habitude, pendant tous ces 2000 ans de l'exil de Jacob, Jacob ne s'est vraiment jamais décidé, en tout cas ne s'est jamais décidé vraiment à mettre fin à cette nuit, parce que il a peur. Il a peur parce que son échec serait l'échec irrémédiable. Ce qui n'était pas le cas pour les premières étapes. C'est le principe de Ma'avir, Rishon, Rishon. Les deux premières fois, c'est sur 6. Mais la troisième, c'est sérieux. La valeur prend loi, prend obligation, qu'à partir de la troisième fois, il y a deux avertissements, et ensuite deux atras, et ensuite, alors la loi joue. Vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob. Le premier exil, l'exil d'Égypte, correspondant à l'histoire d'Abraham. L'exil de Babel, correspondant à l'histoire d'Isaac. Et puis, le troisième exil, Jacob. Les deux exils précédents, on connaît la fin, elle est dévoilée à l'avance. Et elle est aménagée par l'histoire, mais elle est dévoilée. Déjà à Abraham, Dieu dit 400 ans. Ça sera en fin de compte 400 ans d'une manière ou d'une autre. Et il suffit de savoir comment situer le point de départ de ces 400 ans. Mais ça sera 400 ans. Pour rappeler de cela, il y a trois chiffres dans la Torah. 210. 210 ans, effectivement, depuis la naissance de Jacob. 400 ans depuis la naissance d'Isaac. Et 430 ans depuis la révélation que la descendance d'Abraham irait en exil. Mais dans tous les cas, c'est 400 ans. De la même manière, l'exil de Babel, 70 ans. C'est dit à l'avance. Si on aménage, les 70 ans ont commencé quand, alors ils ont fini le jeu, ils ont fini. Mais c'est pas si difficile. Mais pour le troisième exil, rien n'est dévoilé. Rien n'est dévoilé, ça correspond à cette troisième situation où la règle du jeu ne doit pas être dévoilée. Et le Maharal explique cela. Il est déjà vécu bien avant notre temps. Mais il dit, ne vous faites pas d'illusions. Ça n'arrivera qu'au rendez-vous fixé par la loi des temps. Parce que Jacob jamais ne se décidera à se décider. C'est trop, comment dire, c'est trop c'est trop risqué. Le risque est trop grand. Je pense que c'est suffisamment clair. Oh, c'est plus que ça. C'est une espèce de terreur absolue. Si moi j'échoue, alors tout est perdu. Et donc je ne peux me décider que si je suis sûr. Mais comment être sûr? Vous voyez, c'est tout notre problème de la liturgie de la nuit, enfin de la situation de Jacob.
Okay. Pourquoi est-il moins modeste?
Écoutez, oui. Il y a plusieurs schémas. Je vous dis le schéma le plus fondamental, c'est Mitzrayim, Babel et Edom. C'est le schéma fondamental. Mitzrayim correspondant à l'histoire d'Abraham, Babel correspondant à l'histoire d'Isaac et Edom correspondant à l'histoire de Jacob. Ceci s'est aménagé de la manière suivante. Le premier exil de Babel, l'ancienne Babel et Mitzrayim, c'est la même chose. Et ensuite, le deuxième Babel et Paras ou Madaï et l'exil dans l'Empire Perse, c'est la même chose. Et puis, Yavan et Edom, c'est la même chose. Et c'est là que c'est aménagé en 4, 5, 6 étages, suivant les schémas que vous donnent les Midrashim. Le principe fondamental, c'est qu'il y a succession des grandes civilisations qui se succèdent elles-mêmes l'une à l'autre, comme l'année du soleil succède à une année du soleil, en se remplaçant, alors que toute cette succession de civilisations est traversée par le temps d'Israël, et chaque rencontre est un temps d'exil. Et donc, il y a ascension de chacun de ces génies culturels, l'un après l'autre, ascension puis chute. Celui qui correspond à l'histoire personnelle de Jacob, c'est Edom. Donc, par définition, il ne peut pas voir la fin. Et non seulement il ne peut pas voir, mais il ne peut pas, lui, décider la fin. Je compléterai maintenant par un enseignement que vous avez certainement déjà reçu, d'autre part, ou par vous-même. C'est le fait que ce qui nous est enseigné à propos du Kriyat Shema par le Midrash, dans le Midrash Tan Khuma, c'est que lorsque Jacob a voulu prophétiser la fin à ses enfants, à la fin de la parasha de Vayechi, à la fin de Midbar, la prophétie l'a quittée. Il entreprend de leur dire ce qu'il arrivera à la fin, et la prophétie le quitte. Et alors, il interrompt les bénédictions. Les bénédictions, ça veut dire l'identification. Toi, tu es ainsi, voici ta bénédiction. Il identifie ses enfants. En fin de compte, ça revient au même. Il leur dit leur tâche dans l'histoire, mais il ne va pas leur expliquer ce qu'est la fin, surtout il ne va pas leur donner la date, si vous voulez. Et il interrompt ses bénédictions par un verset est extraordinairement important. Nishua Techa, Kiviti, Hashem. À un moment où il parle de Dan Yadin, Amo, Yahad, Shifte Israël, il s'interrompt et il dit Nishua Techa, Kiviti, Hashem. C'est la même chose que Muna Techa et Muna Techa. Donc c'est Yeshua Techa. Le pshat est très simple. Et je vois que la fin ne peut pas venir par mon mérite, par leur mérite. La grande interrogation, c'est êtes-vous Israël? Si je ne peux pas vous dire la fin de l'exil, c'est que peut-être vous n'êtes pas Israël. Et nous verrons comment le Midrash interprète cette interpellation même. Et alors, que dit ce verset? Il voit que le quête, la fin, ne vient pas par le mérite. Alors il dit, Ishua Tera qui lui dit Hachem, j'ai tikva, j'ai espérance, au salut que tu nous enverras, toi. Nous ne méritons pas par nous-mêmes. Eh bien, j'espérerai dans la Yeshua. J'ai pas dit qu'il a chanté la tikva, mais il a dit Kiviti. Et Kiviti Hachem, mais les chassidim ont donné, en s'appuyant sur la Kabbalah, une lecture beaucoup plus profonde encore. Ishua Techa, Kiviti Hachem. Il dit, je sais que tu nous enverras le salut parce que c'est ton salut. Ishua Techa, ce en quoi j'espère, c'est à ton salut à toi. Donc, c'est une chose difficile à comprendre. Nous sommes en catégorie juive. Et dans ce verset, on nous fait lire « Bon, ça va, je renonce à espérer à mon salut. Mais c'est à ton salut que j'espère. Alors sache que je sais que, petit secret, ça arrivera, puisqu'il faut bien qu'un jour tu sois sauvé. » Enfin, c'est-à-dire la shrina en exil. Et c'est une lecture extrêmement importante. Mais je reviens sur le...
Le marakha, c'est pas le malmané, non?
C'est bon. Par exemple, il y a une gemara sur la prière, qui est extraordinairement importante dans le même sens. Hamit palel, sarir si kaven et libo la shamayim. Ça veut dire le pshat. Hamit palel, celui qui prie, doit, si kaven et libo la shamayim, doit penser à Dieu, qui est devant Dieu en train de prier. Ben, ça va se voir. Quoi qu'il y a des juifs qui prient sans penser à Dieu, alors c'est encore un autre problème. Enfin, bon, ça c'est de la sociologie, de la psychosociologie religieuse, mais c'est un problème. Ça existe, ça arrive, c'est tout qui est. Mais des gens qui font la prière. Mais ils ne sont pas devant Dieu. Mais la phrase dit quelque chose de beaucoup plus profond. C'est Hamid Parel, Sarir, Shikaven, Tibola Shamayim, c'est-à-dire l'Olanou, l'Elemanem. C'est-à-dire celui qui prie doit penser qu'il prie pour Dieu, pas pour lui-même. C'est-à-dire là, vous voyez que l'intention de prière s'est inversée. Ah, c'est ma chérie. Et pour ça, on a besoin de 2 heures avant et de 2 heures. C'est Hassidim Arishonim.
Une et une,
pour renouveler.
C'est une heure avant et une heure après.
Dans la Mishnah, c'est Shara Achat. Oui, bon, mais ne mettons pas à la hauteur. D'ailleurs, je vous dirais, une minute, je vais vous dire, mais on a le temps, on a encore le temps. Un petit résumé à ce sujet, c'est à propos de cette Mishnah, il faut 1 heure pour se préparer à la prière, 1 heure pour prier, 1 heure pour reprendre tout. Ça fait 3 heures chaque fois, 3 fois 3, 9. 9 heures. Alors on a posé la question dans la Gemara même. Et alors, s'ils passent leur 9 heures pour prier chaque jour, Toratam ou Melartam, et leur travail, leur étude. Alors la Gemara répond comme ça en passant. Puisque ce sont des chassidim, il faudrait dire des vrais chassidim, alors leur travail, leur étude est faite par d'autres. Leur travail, leur étude. Bon, leur travail, je peux comprendre. Ils sont au CNRS, ils ont une. Mais leur étude. Alors ça se réfère à une discussion qu'il y a dans la Gemara à propos de la deuxième paracha du création art. Veya, im shamoa, tishmeu. Alors il arrivera, si vous écoutez ma voix et vous appliquez mes commandements, remarquez tout de suite, c'est quelqu'un qui pratique la Torah, quelqu'un qui est chamois, tishmou, yere shamaim, et shomamizur. Alors je vous donnerai la pluie en votre temps et vous sèmerez, vous récolterez et vous ferez du pain. Bon. Ah, il peut trouver entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je vais passer mon temps à semer, à labourer, à kibbutznik, et quand est-ce que je vais pouvoir étudier? Alors, Rabbi Ishmael dit l'opinion opposée. Un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps pour dormir, si on veut. Et finalement, la maskana, c'est on sait, celui qui accomplit la volonté de Dieu, son travail est fait par d'autres. Et celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, alors c'est lui qui doit assommer la volonté. Mais on oublie tout de suite qu'il s'agissait de celui Dieu qui accomplissait la volonté de Dieu. Derrière une chamoire qui se met où? Est-ce que c'est clair, la controverse? Et c'est à celui qui est prêt à vivre selon la Torah qu'on dit, et tu sèmeras, tu labourras, et tu pétriras. Comme à la Gemara te dire, il s'agit de celui qui ne veut pas la volonté de Dieu. Bon, la réponse fondamentale, c'est que la volonté de Dieu ici, il s'agit encore d'autre chose que simplement appliquer les commandements. Il faudrait ouvrir une analyse, il me semble que nous avons étudié ça un jour, une analyse assez considérable. La volonté de Dieu, c'est l'unité. Parce que c'est dans la volonté de quelqu'un que se dévoile qui il est. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Cette expression, Retsonon shel makom, c'est Echad. Être Echad. Shmote Echad. C'est dans le Kabbaliste, on a indiqué que la gamatria de Ratson, c'est la même que Shmo. Le nom de quelqu'un, c'est la manière qu'il a de vouloir. Le nom de Dieu, c'est Echad. Donc la définition de sa volonté, c'est l'unité. Alors ça veut dire, vous trouverez un verset dans la fin de la paracha de Shabbat qui vient, lorsque, en fin de compte, Joseph a convaincu ses frères que c'est chez Benjamin qui était la coupe, et que, par conséquent, Benjamin va être pris. Alors, il y a un affolement, une panique. Et alors, Judas, au nom de ses frères, dit, Manedaber ou Manistadak, que pouvons-nous dire? En quoi pouvons-nous nous justifier, Nistadak, à Elohim, Matsai, Aaron, Avader? Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Et alors, il y a une Gemara qui dit, voilà comment il faut lire, Mani Tzadak. Regardez bien le mot Nun, Tzadé, Tet, Dalet, Kuf. Mani Tzadak. En quoi pouvons-nous nous justifier? Et voilà ce que ça veut dire. Nous sommes tous Nechonim. Nous sommes tous Renachon.
Prêts.
Comme les éclairages. Nous sommes tous prêts. Nechon, ça veut dire, c'est comme Kene.
Sincère.
Quand on dit quelque chose, c'est exact, on dit nahon. Et après, tzadikim, tzadet, tehorim, dalet, dachim, comme zachim, pur, kuf, kdoshim. Alors ils sont tous purs, tzadikim, kdoshim. Et pourquoi il peut dire aelokim, matzait, aaron, avadecha? Et Dieu a trouvé notre faute. Quelle faute? Ils sont tous purs, saints. Et ils sont tous, vous avez compris, ils sont tous purs, saints, crédibles, mais ils ne sont pas unis. C'est ça leur faute. C'est-à-dire, il n'y a pas raisonnement chez le maçon. C'est-à-dire, cette Gemara est très, très méchante. Parce qu'elle parle des tzadikim, des tzadikim. Oula, nous, hachamim, quand nous évoluons, chenara, ad mahaser. Qu'est-ce qui manque? Il manque Echad. Et c'est parce qu'il manque Echad qu'il y a eu dispersion des frères, le verset dit Veha Echad Enenu. Et il y en a un qui manque. Veha Echad Enenu. Mais quand il y a un qui manque, c'est l'unité qui manque. Ha Echad. Le verset refuse de donner à dire Echad Enenu. Il en manque un. Bon. Mais s'il en manque un, il manque l'unité. Et alors, je reviens au Kriyat Shema. Qu'est-ce que ça veut dire Retsono shel makom? Ça ne veut pas dire ce que disait Yahim Shamoa Kishmelon. Mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus haut, d'être, de servir la Torah au nom de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de cette unité d'Israël et tout son programme historique. C'est une vertu au-delà de ces vertus d'être croyant, pratiquant, tzadikim, théorim. Et ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse m'est apparue un jour que j'ai eu à me servir et à lire un livre d'érudition extrêmement compliqué. Alors je me suis dit, j'ai compris. Vous avez compris? Le travail de la Torah, il y a un travail de la Torah considérable dans les bibliothèques, dans les encyclopédies, dans les. Je ne sais pas comment je veux dire. Vous n'avez jamais lu une thèse d'études juives. Il y a quatre lignes de contenu et puis il y a 400 pages de référence. Mais qui c'est qui a joué cette référence? Les autres. Mais ensuite, extraordinaire, c'est que ça nous aide. Tous ces livres que font ceux qui ne font pas les Torah chez Macron. C'est le travail de la Torah. Bon, je referme la parole.
Non, pardon, comment pouvait-il être tout ça, ça beaucoup, etc. C'était survenu, si vous comprenez. Après, tout de même, c'est peut-être plus ce que chacun sait à leur frère.
Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à leur frère? Rien du tout d'autre de mettre en question sa place dans l'unité.
Ah, c'est tout bon.
Mais nous n'avons pas le temps de voir les versets en détail. Mais vous voyez que dès que le procès, et il y avait des raisons pour ça, dès que le procès de Joseph mène à la condamnation, immédiatement Réhouven intervient, pas question, Yehuda intervient, pas question, une stratégie très compliquée. Et en fin de compte, quoi? C'est le livre qui commence. Mais il y a une atteinte portée à l'unité, et c'était ça la faute. Et non pas ce qu'on pourrait croire à l'échelle des conduites individuelles. Oui.
Vous avez dit que le Khalam, une préfiguration à la
plus importante. Oui. C'est encore deux références que nous aurions dû voir, mais je peux vous les donner, en tout cas vous les verrez vous-même, parce qu'on n'a plus ça maintenant. Il y en a une qui est donc au paragraphe 70. Je vous la dis rapidement. Je prenais au paragraphe 70, page 1130. Aïe, 70. Rabbanan, patrine les Bessinaï, Vayachalom, Vayinesula. Et nos maîtres ont expliqué ce verset, et il y eut une échelle où les anges montaient et descendaient par le Sinaï. Et Zé Sinaï, Khushbané, Dadin, Khushbané, Dadin. La gamatria, la valeur numérique de Sula, mais la valeur numérique de Sinaï, c'est la même. Moutsavarta, le verset dit Moutsavarta, l'échelle était dressée en direction de la terre, et il a écrit à propos du Mahamad Arsinaï, à propos de la scène de la révélation au Sinaï, « Vaïtiat toulouv et artidahar, il se tint au pied de la montagne. »« Verosho magia shamaima » et sa tête arrivait jusqu'au ciel, il est écrit à propos du Sinaï, « Ve'ahar bo'er ba'esh adlev ha-shamaim » et la montagne brûlait jusqu'au cœur des cieux. Il est écrit « Ve'ineh malachei Elohim » et ici, dans la vision de l'échelle, les anges de Dieu, Hachem, c'est à propos de ce qui est dit dans un autre verset, Rechel Elohim, Revotim, Al-Keshinam, un autre verset qui indique qu'il s'agit des prophètes. Et la Magnoula Nevi'im, Shemikri, Malachim. Et nous avons appris que les prophètes sont appelés des anges. Dirki, Vayomer, Haggai, Malach, Hachem, Begomer. À propos de. Un prophète s'appelle Haggai, comment on dit ça déjà en français? Agé, je crois. Agé. Haggai, qui est appelé Malach Hashem, ange de Dieu. Veine Malachi Elohim de Moshe Aaron. Ces anges-là, c'est Moïse et Aaron. Olim, ils montaient. Ils étaient écrits à propos de Moïse, ou Moshe, Allah et Elohim. Et Moïse est monté vers Dieu. Veyordim, c'est aussi Moshe. Il est écrit Vayered Moshe Minahar, et Moïse est redescendu de la montagne. Veine Hashem Itzavalal, et la fin du verset ici pour nous, pour l'échelle, et voici que Dieu se tenait au-dessus de lui. Vayere Hashem al Har Sinai, et il est écrit, et Dieu descendit sur la montagne des Sinaï. Donc là, nous avons la vision de ce qu'il s'agit de cette communication entre la terre et le ciel par la révélation. Je crois que c'est simple à analyser. Une dernière référence, si vous voulez, c'est prenez Sanarté, c'est-à-dire 69. Non, dans la même page, le paragraphe avant. Rabbi Lazar Akapar Omer, Rabbi Lazar Akapar dit, Minaïna ta Omer, chez Hera, Kadubarakul et Yaakov Avinu. D'où pouvons-nous dire que Dieu a montré à Jacob notre père, Betamigdash Banoui, le temple construit, les Korbanot, et les sacrifices, comment peut-on dire là?
Approcher.
Les Kohanim et Shachtim et les prêtres servants au service, ou Shrina Shora et la Shrina présent, Shneema, puisqu'il est dit dans notre verset, Vayachalom, il a rêvé, Veine Sula Mutsabatsa, et voici que l'échelle était dressée en direction de la terre, vers Rosho Magia Shamaima, sa tête en direction du ciel, notre verset, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Rabbi Lazar ajoute, En chalom shein lo pitaron. Il n'y a pas de rêve qui n'ait pas d'explication. Or, dans tous les autres rêves, dont la Bible nous a parlé, c'est la Bible elle-même qui donne l'explication ici, pas. Donc c'est un rêve différent. Mais Rabbi Elazar dit, et cependant, sache qu'il n'est pas de rêve, qu'il n'est pas d'explication. Et puisque la Bible n'a pas dit l'explication, voici ce qu'est l'explication d'après le verset lui-même, ici. Il a rêvé et qu'il a vu. Pourquoi ? Parce qu'il était à l'endroit du Beit HaMikdash. Donc il était là, à l'endroit de son rêve. Il a rêvé sa propre situation, c'est-à-dire le Beit HaMikdash auquel il se trouve. Le Rochon Magia Shamaïma et l'eau à Corbanot. Et sa tête arrivée jusqu'au ciel, la tête de l'échelle, ce sont les Corbanot, dont le Réach, dont le parfum monte jusqu'au ciel. Behine Malaché Elohim et l'Ukohanim, les anges de Dieu, ce sont des prêtres, Amsharetim, chez Olim Beyordim Bakebesh, qui montent et qui descendent l'estrade. Kebesh, c'est pas l'estrade. On dit comment descendre l'avion, Kebesh. La passerelle, oui, la passerelle. Le plan incliné qui monte sur l'autel. Veine Hashem Mitzavala, et voici que Dieu se tenait devant lui. Raïti et Hashem Mitzavala Mizbeach. C'est un verset du prophète qui dit, et j'ai vu Dieu se tenant sur l'autel. Bon, finalement, nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup d'introductions inévitables, mais ce sont là les textes qui vous montrent les différentes analyses. Avant une minute, avant d'oublier, vous montrerez comment le Baal HaTurim a récapitulé l'ensemble des Midrashim dans une note que vous lirez dans le Baal HaTurim.
Et il l'explique. Mais je termine ça. À propos d'une phrase importante qu'il y a dans la liturgie de la Minoraïm, c'est tout celui-là.
Bien. Et alors cette phrase dit ceci, Utfila est la prière.
Non, ça commence par Utshuva.
Bon, Utshuva, le repentir, Utfila est la prière.
C'était un texte dit à Ashkenazi, alors je ne le connais pas par cœur.
Utfila. Controverse. Oui. Utfila est la prière.
Bon, c'est pas notre prière.
La prière, le repentir. Et la charité, tzedaka, ma'avirin et trois gedera font passer le malheur de la décision du jugement. Alors le Baal HaTurim dit que ce qui joue ici, c'est trois fonctions de la conduite humaine. Tfila renvoie kol, la voix. Tshuva, c'est tzon, le jeûne, comme aujourd'hui. Et tzedaka, c'est mammon, c'est l'argent. Il faudra avoir plus de temps pour analyser ce thème, enfin je vous le confie et puis vous le bichoulisez un peu. Et il indique que la gamatria de ces trois mots, kol, tzon, tzon et mammon, c'est la même, c'est-à-dire 136. Et que c'est la même gamatria de soulam. Mais est-ce que c'est soulam avec vav ou sans vav? Avec ah oui, okay. Et ça fait la mantria Soulam fait Sinaï, ça va. Ça va. Bon, ça c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et donc, nous avons que ces trois médiations dont ils ont parlé ici, et finalement sont réalisées au niveau du rite, pour nous, ces trois médiations entre la terre et le ciel, par Kol, qui fait 136, Tzom, qui fait 136, et Mammon, qui fait 136, et que c'est ça, le soulam dont nous disposons, c'est-à-dire la voie de la prière, le jeûne, ça c'est les sacrifices, et Mammon, c'est l'argent qui permet la tzedaka, c'est-à-dire la charité qui correspond Donc, ces trois amis-là, ça touchait de rime à la moment, à la Torah, à la Moudane.
Je voulais poser
une
très question de la vision des différents sans tutélaire, les hommes, bien entendu, c'est Ésaü,
mais
il s'agit donc de la, de la controverse, au moins faible, entre Ésaü et Jacob.
Oui.
Ça vient de l'église de Jacob.
Oui.
Il est frappant de constater que nulle part on ne parle de l'ange tutélaire de Ishmaël. Et qu'on considère, c'est les différents enseignements, que l'église d'Ismaël est contenue dans l'église des hommes, bien que la controverse entre Ismaël se porte entre Ismaël et Isaac. Et le fait qu'il semble ne pas y avoir d'autonomie, en somme, de l'église d'Ismaël pose un petit problème, lequel j'aimerais bien que tu...
Bien, la réponse est contenue dans les données de la question. Pour la Kabbalah, c'est très clair, Ishmael n'a pas de sar particulier, c'est celui de Edom qui est aussi le sar de Ishmael. La réponse est très claire.
Bien que la controverse porte à un autre...
Oui, nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir sur certains points de ce problème lundi soir, d'ailleurs c'est une préparation que nous avons étudiée ensemble. C'est qu'il y a une sorte de coalition, d'alliance, des intérêts, si vous voulez, entre Ishmaël et Edom. En particulier, nous avons signalé cela, ce mariage-là, mais il y a plus que cela encore. Et il est bien évident que dans l'histoire, sur la coalition en train de réfléchir maintenant, dans l'histoire, il est bien évident que Ishmaël est protégé par le sar de Edom. De quel Edom, de Samaël, mais qui est commun. Il y a le Samaël de droite, c'est Esav, le Samaël de gauche, c'est Edom, malgré les apparences. Et en tout cas, ceci est indiqué par la phrase importante. Je le cite alors aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai l'occasion dans l'histoire, qui est très importante à comprendre, un verset sur la phase actuelle dans laquelle nous nous trouvons. C'est la bénédiction à Ishmaël, très exactement ceci. Yado bakol, veyad kol bo. C'est-à-dire, sa main se va sur tout, il mettra la main sur tout, d'ailleurs il est en train. Veyad kol bo, et la main de tout se va sur lui. Je crois que nous sommes arrivés à cette phase. Et une des interprétations de la Kabbalah sur cette phrase, que je vais vous citer immédiatement, peut-être se réfère à ta question de la manière suivante. Nous savons que les trois patriarches, leur bénédiction est dénommée par la formule Bakol, Mikol, Kol. Et Abraham a été béni Bakol, en tout. Isaac a été béni Mikol, à partir de tout, de tout. Et Abraham et Yaakov, Kol, tout. Bon, c'est un thème pour lui-même et qui nous est très familier. Abraham Bakol, Yitzhak Mikol, Yaakov Kol. Et alors, quel est le verset à propos d'Ishmaël? Yado Bakol. Il y a une achiza d'Ishmaël en Abraham. Yado, sa main de Abraham, d'Ishmaël, et Bakol se tient à Abraham. Oui, d'une certaine manière, le mérite d'Ishmaël vient d'Abraham. Veyad Kol Bo, mais la main de Jacob, Kol, se va sur lui. Alors, il est bien évident que dans cette double lutte d'Ishmaël contre Isaac, et d'Ésaü contre Jacob, se produit une espèce d'alliance entre Isaac et Jacob. Jacob aide Isaac dans sa lutte contre Ishmaël, et Isaac aide Jacob dans sa lutte contre Ésaü. Et finalement, nous voyons bien, si vous voulez, qu'il y a une espèce de double coalition, quatre fois mêlée, si j'ose dire, Ishmaël et Édom contre Isaac pour le procès d'Ishmaël, et contre Jacob pour le procès d'Édom, mais inversement, lutte de Jacob et Ésaü contre Ishmaël aidé par Jacob et contre Édom aidé par Isaac. Enfin, c'est peut-être un petit peu une histoire de famille compliquée, mais c'est exactement cela que nous sommes en train de vivre actuellement de façon considérable.
Quelle était la ville Alors, vous nous avez parlé hier à l'opposé de Jérusalem, on n'a pas trouvé dans notre atelier, on n'a pas de globe terrestre.
On va faire comme au jeu de je ne sais pas quoi à la radio. On a déjà appris une chose, c'est pas une ville.
C'est déjà dans l'hémisphère sud.
Comment ?
C'est dans l'hémisphère sud déjà.
Non, c'est énorme. C'est énorme d'après les trucs, c'est énorme.
Alors, non, ça veut dire que tout se passe comme si c'est bien Jérusalem qui est le centre du monde. Regardez bien ce qu'il y a là-bas de l'autre côté.
Il n'y a rien.
Non. Et de la même manière, si vous voulez, d'une façon générale, qu'on pourra parler du génie français. Alors, sur Terre, dans l'histoire et la géographie, eh bien, la France et les Français, le peuple de France, eh bien, dans ce symbolisme, comme pour employer ce terme, tout se passe comme si dans le ciel, cet être de la réalité historique, la France, est représenté par un tsar, par un malar, qui est son génie, mais dans les deux sens du mot génie en français. À la fois le génie dans le sens de culture, si vous voulez, et puis, ces génies dont on disait dans la mythologie, les bons génies, les malins génies, les mauvais génies, un génie. Il y a une personnalisation de toute identité culturelle. C'est cela que Jacob voit dans sa vision, qu'il aura à se mesurer avec ses génies culturels. Je dirais aussi que c'est pas non plus un génie moral, mais ça dépend, il faut choisir un niveau de vocabulaire, un registre de vocabulaire. Et je crois que même le génie culturel a une signification morale, dans le sens général du terme, spirituel, moral, opposé à physique. Il y a une manière d'être homme propre à chaque culture. Et il y a là une réalité concrète, personnalisée. Ce n'est pas nécessaire même de se référer au vocabulaire du personnalisme, mais chaque culture humaine a son type humain et qui a sa figure. Mais, je ne sais pas quand, par exemple, on fait vraiment une parenthèse, mais quand De Gaulle disait qu'il se faisait une certaine idée de la France, il parle d'un être qui transcende, qui dépasse les Français quotidiens. Il parle de l'identité, de cette manière d'être homme, qui est cette culture particulière. Et nous avons eu à nous mesurer à ces génies culturels à travers toute l'histoire d'Israël.
Il y a son embargo.
Bon, et bien écoutez alors, Shabbat Shalom.